Bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Bac FM. Vous êtes bien dans votre émission Culture en Vrac et vous le savez, chaque mercredi, nous décortiquons l'actualité, les activités, les propositions, qu'elles soient artistiques ou même en dehors du champ artistique quelquefois, de ce bâtiment qui ouvre grand ses portes pour toutes les propositions. Et nous avons aujourd'hui un grand plaisir vraiment partagé à accueillir dans nos studios pour cette émission un certain Dominique Baran qui, un an après bien sûr le concert qui était prévu dans cette grande salle et qu'on n'avait pas pu bien sûr mettre en place avec cette fermeture, on est content bien sûr de se retrouver pour parler du concert Heroica proposé par l'Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais qui un an après va pouvoir enfin proposer un très beau programme, vous le saviez si vous y aviez déjà vos places notamment de concert. Bonjour Dominique, ravi de t'accueillir dans ces studios, on est content de te voir.
C'est plutôt de bonne nouvelle. Bonjour à vous et du coup moi aussi, ouais. Évidemment.
On va donc pouvoir développer et surtout vous donner envie, s'il vous donne envie d'assister à ce concert qui aura lieu le 14 décembre à 17h dans la grande salle. Les places sont déjà bien sûr ouvertes, hein, en tout cas les locations ouvertes depuis les adhésions au mois de juin. Voilà une salle déjà qui est bien remplie, mais nous avons encore des possibilités pour pouvoir assister à ce concert. Et justement aujourd'hui l'intérêt c'était de pouvoir parler des deux œuvres qui seront interprétées dans cet opus, voilà, concert d'hiver. Il y en aura également deux autres ensuite au printemps et au début de l'été. On pourra en reparler d'ailleurs en fin d'émission pour redonner aussi les rendez-vous au public. Et donc le concert qui s'appelle bien sûr Heroica, dont le titre Heroica, bien sûr fait référence, ça vous le savez, notamment à cette symphonie numéro 3 de Ludwig van Beethoven, la symphonie héroïque évidemment. Et pour commencer Dominique, évidemment, parlons peut-être un petit peu de Beethoven, hein, certainement. Alors bien sûr, je le sais, parce que tu essaies de pouvoir peut-être faire interpréter les 9 symphonies de Beethoven, notamment avec l'orchestre. Je sais que c'est un génie pour toi, en tout cas quelqu'un que tu considères comme une référence, bien sûr, dans la composition.
Oui, tout à fait. Référence dans la composition, référence de la musique symphonique, un incontournable, avec ses 9 symphonies, tout aussi belles les unes que les autres, avec... quelques préférences, ce qu'on appelle les grandes symphonies, dont l'héroïque fait partie. Et c'est d'ailleurs, avec la 9e, la plus longue, puisqu'elle dure 55 minutes. Symphonie héroïque en hommage à Napoléon, plutôt à Bonaparte. À Bonaparte, on expliquera pourquoi plus Bonaparte que Napoléon. Parce que Beethoven était très sensible aux valeurs républicaines de la Révolution française et que le général Bonaparte, parti l'assaut des royaumes européens, veut propager. Donc c'était un grand admirateur de Bonaparte et il a dédié cette symphonie qui est un petit peu la symphonie en référence à la vie du héros de Bonaparte. Bon, après, quand il est devenu empereur et un peu tyran, Beethoven a déchiré, le manuscrit, oui, de colère, pour la petite histoire.
Devenu un petit peu mégalo finalement, hein, c'est vrai, ce personnage qui a un petit peu pris trop la grosse tête, si on peut dire, et qui ont du coup pris des valeurs démesurées par rapport à ce qu'il avait voulu accomplir au départ. Et c'est vrai que du coup cette symphonie elle transpire quand même finalement la vie de Napoléon, parce qu'on retrouve je crois pas mal de traces, notamment musicales, en tout cas de références bien sûr, à ses conquêtes et à cet esprit de grandeur de Napoléon.
Oui, tout à fait, hein. Le premier mouvement il célèbre l'énergie de Bonaparte, le deuxième évoque sa mort ou la mort sur les champs de bataille, hein. Et puis troisième, quatrième, c'est l'optimisme retrouvé à une période charnière pour Beethoven, hein, puisque c'est les prémices de sa surdité. Mais ça nous enseigne qu'avec un terrible mot comme la surdité pour un musicien, ce qui est le mot le plus terrible, il y a quand même l'espoir de pouvoir encore composer. Et il avait écrit ça à ses frères, hein. Donc troisième, quatrième mouvement qui sont plein d'espoir.
Quand on sait qu'il en a quand même écrit 9, donc quasiment les deux tiers avec une surdité, on se dit c'est ça qui est extraordinaire chez Beethoven. C'est complètement fou.
Ouais, c'est inexplicable, hein. Ça fait partie de la magie, du talent. On se demande comment il pouvait faire. Mais et peut-être les plus belles symphonies de Beethoven, la 5e déjà, la 6e, 9e, 7e, 9e, qui sont vraiment des monuments, ont été décuplé, par peut-être cette surdité. Il y a une profondeur, une mélancolie à la fois, et puis une architecture qui est fabuleuse. Déjà dans cette troisième symphonie, ça marque un tournant dans la symphonie. On est à la période charnière entre le classicisme, hein, oui. Post-Mozart, post-Haydn, et puis le romantisme. Et là, cette symphonie, dans son écriture, c'est déjà romantique, et dans toutes les impressions qu'elle donne aussi. Et puis l'orchestration qui est fabuleuse. Là on fait vraiment un grand pas entre les deux premières symphonies qui sont plutôt d'une écriture à Haydn, Mozart, et cette troisième symphonie avec l'utilisation des cuivres notamment, de la timbale qui est assez révolutionnaire.
C'est assez une rupture finalement.
C'est dans... ça, ouais. C'est ça, tout à fait.
Et une œuvre longue, parce qu'une œuvre de quasiment 50 minutes, hein, si je ne me trompe pas.
C'est la vie de Bonaparte qui est décrite, donc effectivement, je pense qu'il a fourmillé d'idées. Il a mis quand même du temps à l'écrire, hein, puisqu'il a eu un petit arrêt dans les années 1801-1802, au moment où il commence à devenir sourd, et l'écriture de cette symphonie. Donc il a pris du temps, mais il y a une mise en lumière qui est assez exceptionnelle dans l'écriture, dans la structure. Moi qui étudie encore la partition maintenant, puisque je découvre tous les jours de nouvelles choses, j'avais un professeur de direction au Conservatoire de Dijon qui disait que lui-même, il découvrait à chaque fois, il les avait dirigés toutes, nombreuses fois, ces symphonies, et à chaque fois, on découvre des choses nouvelles dans l'orchestration, dans l'articulation, dans les nuances, des choses qu'on n'a pas vues. Et c'est ça qui est intéressant, là, je redécouvre des choses que je soupçonnais même pas, quoi.
C'est d'ailleurs une question que je voulais te poser, moi qui m'étais venu notamment. C'est vrai que l'interprétation de symphonies, alors d'œuvres de composition de manière générale, mais des symphonies, on peut finalement les interpréter avec des cadences différentes, avec des rythmes différents, des vitesses différentes. Qu'est-ce qui fait que pour un chef d'orchestre, on part sur une impression, on part sur quelque chose de beaucoup plus théorique? Qu'est-ce qui fait finalement le sel de ton métier, si j'ose dire?
L'interprétation, oui. Alors ça, grande question pour un chef d'orchestre, parce que on a aussi un bagage historique avec de nombreux enregistrements et qui font référence. Bon, je pensais aux enregistrements de Karajan qui sont la référence, mais pas que, de Ferd Wongler qui l'ont précédé, Toscanini et puis des chefs plus modernes comme Abbado par exemple, qui sont des grands spécialistes aussi de Beethoven, et puis maintenant toute la jeune génération des chefs, notamment des chefs qui viennent de Scandinavie, qui sont très très talentueux et qui revisitent à chaque fois des grandes œuvres. Alors moi j'ai évidemment, je serais malhonnête en disant que je fais faire du Beethoven à la Dominique Baron, parce que je suis évidemment influencé par tous ces maîtres de la direction d'orchestre qui sont des références. Après, j'essaye de... Quand tu parlais des tempi, qui est fondamental dans toutes les œuvres, mais plus particulièrement dans Beethoven, et moi, c'est pas une bagarre avec mes musiciens, parce que j'ai des élèves et puis des amateurs, et aussi, il faut construire les choses avec eux, petit à petit, au cours des répétitions. Donc, on peut pas imposer tout de suite ses propres tempi, donc on y va par étapes, et je disais que ce qui est important, c'est de tenir le tempo là-dedans, parce que en même temps, avec le phrasé. Voilà, c'est tout l'art et la manière de tenir le tempo. Alors après, le tempo propre à un chef, c'est aussi c'est son cœur. C'est une réaction personnelle, comment on sent les choses. Il faut essayer d'être le plus proche possible. Alors évidemment, on a des indications de Beethoven qui donnent un tempo, mais il faut savoir si ça correspond. On doit être à l'aise.
Oui.
Le chef avec son tempo. Et puis après, le faire passer aux musiciens avec une gestique claire, évidemment, hein, puisqu'on est là pour guider les musiciens. Le rôle du chef, c'est de guider plus que de diriger. Je pense qu'on est un guide. Et des fois, il faut laisser jouer les musiciens, mais en cadrant, en rattrapant les choses.
C'est un savant mélange entre l'interprétation et puis également respecter la partition, parce que c'est des indications. Si on est à 86 à la noire, on ne peut pas jouer à 120, on est d'accord.
Mais on est d'accord. Après, quand je dis qu'il y a une interprétation des tempi, une adaptation des tempi, c'est relatif. Ouais. Hein, on peut aller un petit peu plus lentement ou un petit peu plus vite, mais on garde quand même les indications. Mais j'ai écouté par exemple un enregistrement j'ai trouvé sur YouTube, de Maurice Jansen, un extraordinaire chef, et j'étais séduit par toute son interprétation, mais je trouvais que son deuxième mouvement était trop rapide pour une marche funèbre. C'est pas une marche funèbre, quoi. Je me dis, mais comment se fait-il qu'un chef comme ça, il le prenne aussi à lent? Moi, je le sens pas du tout comme ça. Je le sens plutôt à 4 et lui, il le bat vraiment à 2. Mais bon, voilà. Après, on peut en parler des heures et des heures.
Bien sûr.
L'important, c'est de pas faire de faute de goût, comme on dit, et de pas. Mais ce qu'il y a de formidable chez Beethoven, c'est que tout est écrit. Moi, je dis aux musiciens, il suffit de jouer ce qui est écrit. Mmh. Toutes les nuances sont écrites. Mmh. Après, c'est de l'interprétation, c'est des équilibres entre les bien pupitres, sûr, par exemple, sûr. Ce qu'on veut faire ressortir, et puis comme on veut rendre un legato, par exemple. Il y a plein de petites choses que c'est comme un peintre, on met une touche, nous, chefs d'orchestre, en proposant des choses aux musiciens. Et puis, mais on reste dans des références quand même. Je veux dire, même si les symphonies de Beethoven, si on les écoute, les différents enregistrements, à chaque fois c'est différent. Mmh. Et même Karajan, hein, les trois enregistrements qu'il a fait pour la Deutsche Grammophon sont trois versions différentes. Bon, alors il y a beaucoup, les dernières, il a beaucoup trafiqué le son, hein, aussi. C'est, voilà, parce que c'était aussi un ingénieur du son, Karajan. Il avait beaucoup de talent et dans différents domaines. Et il y a une puissance sur le dernier enregistrement qu'on n'a pas forcément sur les autres. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Et après, lui, évidemment, il mettait des dans les pupitres et il doublait tout. C'est-à-dire, il y avait des gros pupitres de cuivre. Il mettait 4 trompettes alors qu'il n'y en a que 2. Pareil pour les corps.
C'était une question d'ailleurs, justement. Peut-être qu'aussi, suivant les orchestres, évidemment, il n'y a pas toujours le même nombre d'instruments.
C'est ça.
Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est important? Est-ce que du coup, ça change les choses?
On a toujours, on essaye de respecter un peu la nomenclature, c'est-à-dire le pupitre de violon 2, violon 1 qui est un petit peu plus consistant, violon 2 un peu moins, et puis les altos. Mais on fait aussi avec les moyens du bord. Ouais. Moi, je fais aussi avec ce que j'ai, l'orchestre que j'ai. Et j'essaye de, l'harmonie, il y a toujours, ils sont toujours par deux là, dans ces symphonies. Donc là, on respecte vraiment la nomenclature. Mais les cordes, ça varie en fonction des possibilités. On essaie après de jouer sur les équilibres, évidemment. Puisque moi je peux pas, on peut pas, les concerts Nuvernet, avoir une grosse formation, mais de toute façon maintenant ces symphonies elles se jouent avec des plus petites formations d'une quarantaine de musiciens. C'est fini ça, à l'époque où on jouait une symphonie de Beethoven avec 100 musiciens. C'est une autre époque, l'époque de Karajan, c'est vrai que c'était un peu démesuré.
Avec toutes ces informations que vous venez d'entendre notamment, et puis toutes ces, on va dire, ces affirmations, on peut se rendre compte finalement qu'aujourd'hui la musique classique reste encore totalement vivante, justement parce que vous n'entendrez jamais deux mêmes versions finalement, si je peux résumer tout ce que tu dis.
C'est ça.
Chaque version que vous pourrez entendre en concert ou sur disque ou même à la radio ne sera jamais la même. C'est ce qui fait aussi tout le charme et tout l'intérêt de tout cela.
Et du concert.
Exactement, et du concert. Et d'ailleurs, pour l'imager, tu nous as conseillé de diffuser aujourd'hui notamment une version du Bavarian Radio Symphony Orchestra. Notamment,
que j'aime beaucoup. On en parlait tout à l'heure.
Voilà. C'est pour vous donner une idée plus précise de cette interprétation. Donc on va vous proposer la fin du premier mouvement assez emblématique notamment de cette symphonie. Vous venez d'entendre donc la fin du premier mouvement de la symphonie héroïque de Beethoven, proposé notamment, bien sûr, dans son entièreté, le 14 décembre à 17h dans la grande salle par l'Orchestre symphonique des Concerts Nivernais. On a entendu la version du Bavarian Radio Symphony Orchestra. On parlions avec Dominique Baron, justement, et bien sûr, des interprétations et de tout ce qui fait le sel, également des concerts et puis des versions que vous pouvez entendre de ces symphonies peut-être très connues, mais qui, du coup, vous permettent toujours d'entendre des versions différentes, quelles que soient les situations. On va parler maintenant, notamment, de la deuxième œuvre qui est au programme, qui est une œuvre un peu moins connue, il faut le dire, il faut se l'avouer, bien sûr, celle notamment du grand concerto de Bottesini, donc un compositeur, mais un compositeur d'ailleurs qui était à la basse contrebassiste, et je crois qu'il est arrivé à la contrebasse un petit peu par hasard, Dominique.
Oui, tout à fait, on l'appelle le Paganini de la contrebasse Bottesini. Il a laissé un grand répertoire de musique dans laquelle la contrebasse est employée comme instrument soliste, en ayant employé toute son étendue, et il arrive à faire jouer la contrebasse aussi aiguë que le violon, et puis il développe tout ce qui est harmonique, donc il y a une grande recherche. Mais il était aussi compositeur d'opéra et chef d'orchestre, donc il avait tout un panel de talents certains pour différentes disciplines. Voilà, et moi j'ai choisi cette œuvre. Alors il y a deux concertos de Bottesini pour contrebasse, et il y a plusieurs pièces, mais ces deux concertos, je me suis dit, il faut mettre en valeur la contrebasse qui a jamais été vraiment mise en valeur dans les programmations de l'orchestre des Nivernais. Et je lui ai dit, bon, c'est le tour de la contrebasse, et je me suis dit, en écoutant, en revenant sur des choses que j'avais déjà dirigées à l'époque, il faut proposer ce grand duo concertant pour violon et contrebasse, parce que c'est peut-être une de ses plus belles œuvres. C'est du bel canto italien, finalement, pour le violon. C'est complètement dans l'écriture de Paganini pour le violon, par exemple. Mais c'est très, très surprenant au niveau de la contrebasse, et les instruments se marient à merveille. Et on a la chance d'accueillir deux extraordinaires solistes, tous les deux super solistes à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et la jeune génération des cordes en France, tous deux titulaires de premier prix du CNSM de Paris, mais pas que, de concours internationaux. Et je dirais que le violoniste, c'est un peu une surprise, puisque initialement, on devait avoir mon ami Jean-François Corvézier, qui est professeur au Conservatoire de Dijon, avec qui j'ai interprété cette œuvre il y a déjà une trentaine d'années, et on s'était donné rendez-vous de le refaire 30 ans après. Et malheureusement, il a été opéré de la main, et sa rééducation un peu plus compliquée que prévu, un peu plus longue que prévu. Mais il m'a trouvé un de ses anciens élèves, qui est Nathan Mierl, qui est rentré en 2022 contrebasse solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, mais qui a été finaliste du concours Reine-Elisabeth. C'est le seul Français depuis 10 ans qui a été. Et puis d'autres prix internationaux qu'il a. Donc c'est un garçon qui a beaucoup de talent. Et puis son collègue, Yann Dubost, qui est aussi un as de la contrebasse. Donc on se réjouit de les retrouver dans cette pièce.
Ce sont deux instruments, on va dire, qui sont un peu aux antipodes en termes de, bien sûr, de tessiture. Donc c'est une œuvre assez paradoxale, finalement. C'est rare qu'on puisse trouver comme peut-être des concertos, des œuvres.
Oui, c'est assez rare, justement. Et puis c'est un petit bijou. C'est bien écrit. Alors il y a une petite introduction à l'orchestre au départ, et puis rapidement les deux instruments rentrent, et puis ils prennent chacun la parole, et puis après ils exposent les thèmes chacun en solo, et puis il y a plein d'exercices qui se font entre eux. Voilà, c'est bien écrit, franchement, c'est une œuvre que le public va adorer.
Le Bottesini, c'était aussi, je crois, un chef d'orchestre, d'ailleurs, qui était directeur d'orchestre.
Et oui, puis, tout à fait.
Si je ne me trompe pas, il a d'ailleurs fait aussi la première d'Aïda de Verdi au Caire, il me semble bien.
C'est ça.
C'est lui qui l'a dirigé.
Ah, bah oui. Quelle culture, c'est ça. Il a même été félicité par Verdi pour son exploit dans l'interprétation.
Ouais. Bon, voilà. Bah, vous en savez un petit peu plus sur ce compositeur. Et c'est, voilà, l'instrument, la contrebasse qui, bien sûr, mise en avant, même s'il n'est pas toute seule, mais c'est vrai que du coup c'est intéressant de découvrir cet instrument qui est bien souvent, c'est vrai, côté cours, bien là,
côté orchestre, les pizzes et tout, un peu, et puis dans le jazz, évidemment, mais là, vraiment mis en soliste, moi, je soupçonnais pas, quand j'ai découvert cette œuvre, les possibilités de la contrebasse, notamment dans l'aigu, dans les harmoniques, et puis dans la virtuosité aussi, et c'est une performance encore plus forte que pour le violon, puisque il y a des déplacements.
Démanchés plus grands.
Voilà, des démanchés, comme on dit, sont physiquement pas faciles. Donc voilà, c'est vraiment une curiosité, quoi, de venir découvrir cette œuvre.
On va donc l'imager également avec notamment la version du Symphonie Orchestra de Köln qui nous propose, voilà, on va reprendre la reprise notamment du thème de début qui va développer bien sûr jusqu'à la fin de ce grand concerto. Vous venez d'entendre un extrait du Grand Duo Concertant de Bottesini, donc la deuxième œuvre qui sera bien sûr au programme du concert du 14 décembre, dimanche à 17h dans la grande salle. Vous pouvez réserver vos places bien sûr auprès de nos services de billetterie 03 86 93 09 09 et également sur le site internet www.maisonculture.fr. On a l'occasion également de parler très rapidement, Dominique, justement des prochains rendez-vous, l'un au printemps et puis également le second un petit peu avant l'été, notamment de rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. On peut en dire quelques mots très rapidement.
On en amène trois rendez-vous. On va dire, puisqu'on travaille aussi avec le théâtre.
Oui, hein, c'est vrai.
Voilà. On sera le 28 février pour un concert au théâtre avec les quatre saisons de Vivaldi, notamment, avec une merveilleuse soliste qui nous vient de Lyon. C'est la violoniste Nina Millet qui sera mise à l'honneur dans ces quatre saisons. On sera en plus petite formation, formation cordes et clavecin. Mm-hmm. Hein, donc, ça, c'est le 28 février au théâtre. Mais je crois qu'il reste très peu de place parce qu'il y a un engouement pour les quatre saisons, évidemment. Et puis, on sera le 29 mars, à nouveau à la maison, dans la grande salle, pour un programme de musique française avec des chefs-d'œuvre allant de Berlioz en passant par Debussy et on terminera par le Boléro de Ravel.
qui sera au programme du concert et du Quai des Fleurs le lendemain après-midi.
Voilà, qu'on fera découvrir aux écoliers collégiens de la Nièvre, découvrir ou redécouvrir, hein, pour ceux qui connaissent déjà, l'œuvre la plus jouée au monde. Je crois qu'elle est jouée toutes les 5 minutes. Et on finira par ce Boléro de Ravel.
Voilà. Eh bien, voilà, un beau programme encore à venir. N'hésitez pas, bien sûr, à venir le 14 décembre à 17h pour la symphonie héroïque de Beethoven et le grand duo concertant de Bottesini. Merci, Dominique,
d'être
venu parler de ce concert. Et puis, on se dit, bien sûr, à très bientôt. On poursuit en terminant cette émission avec les petits rappels, évidemment, qui concernent notre programmation avec Alice Biden's Company, le chorégraphe taïwanais, notamment Po Cheng Sai nous propose une revisite, une réadaptation du grand classique d'Alice au Pays des Merveilles, bien sûr avec du cirque, des arts visuels, des arts martiaux, de la danse, un spectacle absolument complet le 11 décembre à 20h dans la grande salle. Bingo à l'auto musical. Alors là, le trio Musica Humana, qui d'habitude était cantonné à un répertoire de chants renaissance, eh bien, dirigé notamment par la célèbre Corinne Benizio de Shirley Dino, met en scène des rifles, un loto musical complètement déjanté, mais alors avec une qualité vocale absolument magistrale. On va passer de la musique classique renaissance, on va aller directement des réinterprétations, réadaptations de Claude François, j'en passe et des meilleurs, pour vous faire deviner à chaque fois le numéro qui va sortir de la sphère à boules, et vous allez pouvoir jouer l'auto et peut-être d'ailleurs gagner le filet garni. Un spectacle résolument kitsch, mais alors qui est délicieux à souhait, vraiment, ne manquez pas ce rendez-vous. Donzy, Châtillon, Infi, Lucenay-les-Aix et Mef sur Loire du 15 décembre jusqu'au 19 décembre. Dépêchez-vous, pour certaines représentations, on est quasiment déjà en liste d'attente. Et oui, les rifles dans la Nièvre, c'est une institution, et surtout quand on peut en plus apprécier une qualité musicale et vocale indéniable. Et puis pour terminer, le jeudi 18 décembre à 20h dans la grande salle, le spectacle Ancrage de la compagnie Saint-Cirque, une compagnie qu'on avait déjà accueillie dans un spectacle qui s'appelle Manfala. Là, on va avoir deux artistes sénégalais d'une compagnie, d'une troupe vraiment de cirque emblématique du Sénégal. Un voyage vous est offert, c'est vraiment un vrai bijou. Il nous reste que quelques places pour cette représentation. Ils sont deux sur scène, mais alors on a l'impression qu'ils sont 10, tellement les prouesses techniques, physiques, artistiques et même émotionnelles sont fortes. Donc n'hésitez pas à nous contacter également, bien sûr, pour ce spectacle. On va se quitter avec un extrait également musical de Ben Mazoué. Bah oui, parce que Ben Mazoué, c'est ce soir dans la grande salle. Là, vous le savez, on est en liste d'attente depuis quelques semaines maintenant. Nous allons vous souhaiter une excellente journée, une très bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour de nouvelles aventures. À bientôt.
C'est l'heure, je suis prêt, des jours que j'y pense. Pourtant je sais qu'il faut pas que je cogite, mais j'y pense, tout en me disant pas y penser. C'est l'heure d'aller te retrouver, d'aller te retrouver. Faut aller te retrouver, se forcer à pas être en avance, puiser dans ma sérénité. Alors que tout s'active ici, mes muscles, mes sens, mes sentiments. Tu sais pas comme c'est difficile de faire un peu l'indifférent. Je suis indifférent à rien quand il s'agit de toi. Je prends des nouvelles auprès de ceux qui te connaissent. Quand tu crois que je sais pas, parfois je sais déjà. Je fais comme si je savais pas pour pas que ça te blesse. Je suis solide et je sais jouer le calme, puisque c'est ça que tu veux. Toi tu veux qu'on évite les drames, que je range mes états d'âme et que je t'écoute un peu. Je suis solide et je sais jouer comme toi, à la femme digne et prête comme toi. Mais quand tu souriras, je décrocherai, parce que tu souris trop bien, tu sais. Et si ça se passe bien, j'en ai pour des heures de plaisir. Puis j'en ai pour des jours de désir, puis j'en ai pour des semaines de manque. Et si ça se passe mal, j'en ai pour des jours de souffrance, j'en ai pour des semaines de distance, puis j'en ai pour des années d'absence. Des années. Allez, tant pis, je me lance, vas-y, assez de jouer de toute façon. Tu vas me griller au premier son, ou même peut-être avant, rien qu'en me voyant, autant te le dire que je suis heureux, parce que c'est vrai. De te voir, de te retrouver, de t'entendre me raconter des nouvelles de gens qui ont tant compté. Je vais vouloir que ça dure, mais après, qui va me répondre quand je vais l'appeler? J'ai épuisé tous mes alliés. Si je leur dis que pour moi c'est pas terminé, ils vont me tuer, alors que c'est eux qui m'ont soutenu, qui ont sauvé ce corps perdu, qui m'ont appris à t'effacer. On peut jamais t'effacer. Je préfère peut-être un peu de toi, mais pas tout. Si c'est ça que t'offres, pourquoi pas? Un peu de toi pour faire du nous, ranger mes états d'âme dans un trou. Et si ça se passe bien, j'en ai pour des heures de plaisir, puis j'en ai pour des jours de désir, puis j'en ai pour des semaines de manque.
Et si ça se passe mal, j'en ai pour des jours de souffrance, j'en ai pour des semaines de distance, j'en ai pour des années, pour des années, pour des années.